Europe 1.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews, notamment avec Nicolas Bavrez, historien essayiste et auteur de ce livre « Démocratie contre empire autoritaire » aux éditions de l'Observatoire « La liberté est un combat », ô combien d'actualité avec ce qui se passe évidemment dans le monde. On va se diriger vers la Russie pour savoir ce qui s'y passe, alors qu'un huitième suspect de l'attaque terroriste a été arrêté ce matin. La Russie semble toujours chercher un coupable. Elle se tourne désormais évidemment vers l'Ukraine, mais aussi vers les services secrets occidentaux. Les explications de Clotilde Payet.
Après l'Ukraine, la Russie cible les Occidentaux dans leurs accusations. Le chef des services secrets pointe en effet leur implication dans l'attaque meurtrière de Moscou.
Nous pensons que l'action a été préparée à la fois par les services islamistes radicaux eux-mêmes et facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services de renseignement ukrainiens, ils y sont directement impliqués. Je pense que c'est la vérité.
Après avoir longtemps ignoré les revendications de l'État islamique, Vladimir Poutine avait finalement admis hier reconnaître l'implication d'islamistes radicaux, tout en sous-entendant des liens avec l'Ukraine.
C'est une tactique de peur, comme je l'ai déjà dit. Et la question se pose immédiatement de savoir à qui cela profite. Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives de la part de ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays, par l'intermédiaire du régime néo-nazi de Kiev.
Un balai d'accusations qui, selon les autorités ukrainiennes, permettent à la Russie de poursuivre leurs actions de guerre en Ukraine.
Ce qui est terrible, c'est que l'État islamique a revendiqué deux fois l'attaque de Moscou et Poutine.
Peut-être une troisième fois.
Poutine continue à dire non, il faut regarder du côté des Ukrainiens et maintenant des services secrets occidentaux, Louis de Ragnel. Comment vous expliquez ça? C'est une cécité complète
Tout le monde sait, et c'est pas une question même de gouvernement, de pour ou contre Emmanuel Macron. Mais c'est du grand n'importe quoi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut reprocher ce qu'on veut, si vous voulez, au chef de l'État, mais absolument pas de mettre en place un système avec les services de renseignement pour soutenir Daesh, l'État islamique, pour commettre un attentat. L'État islamique nous a suffisamment frappé sur notre sol. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est même insupportable et très insultant, à la fois pour le renseignement extérieur, le renseignement intérieur en France. Le deuxième élément, c'est que si réellement c'était le cas, dans la mesure où d'ailleurs la DGSI travaille avec les services de renseignement russes sur la lutte contre le terrorisme, ça, je pense que Vladimir Poutine
fait bien attention
de pas le dire.
Je crois que ça illustre la vraie nature du régime de Vladimir Poutine. Avec l'assassinat de Navalny, on a eu la face violence, la terreur. Et là, vous savez, c'est Solzhenitsyn face à l'Union soviétique qui avait une phrase géniale, il disait « crois tes yeux, pas tes oreilles ». Et c'est vrai que face à Poutine, on est vraiment maintenant dans une structure de type totalitaire, parce que c'est un régime qui vit sur le mensonge. Donc, quand il parle de paix, il faut comprendre que c'est la guerre. Quand il parle de nazis à Kiev, il faut comprendre qu'ils sont à Moscou. Et tout est à l'avenant. Donc, on a un système qui a perdu, et c'est là où on peut se demander combien de temps ça va tenir, c'est que à ce point, il n'y a plus aucun lien avec le réel. Donc, il y a une espèce de novlangue qui est complètement déconnectée de la réalité, et puis des choses qui tout simplement ne sont même pas crédibles, j'allais dire, sans parler de problèmes de stratégie ou de renseignement, mais sur le plus élémentaire bon sens. S'il y a une chose que les services de renseignement occidentaux ne feront jamais, non seulement ils n'ont pas aidé, mais je rappelle que les Américains ont prévenu et alerté en temps et en heure et qu'à ce moment-là, la réaction de Poutine, ça a été de dire on cherche à désorganiser la Russie. Et donc, tout ceci est effectivement très inquiétant. En tout cas, ça veut dire une chose à court terme, c'est que ce régime est fondé sur le mensonge, mais aussi sur la violence, et que la violence intérieure et la violence extérieure vont se durcir encore, et que nous sommes dans les cibles désignées de la violence extérieure.
Nous sommes en première ligne, pratiquement, nous, Européens, et nous, Français en particulier.
Les Ukrainiens sont en première ligne, mais nous avons la guerre hybride, et là encore... très clairement avec les problèmes avec le CIO, etc. La France va être une cible particulièrement désignée pendant les Jeux Olympiques et nous devons en tenir compte.
Parce que je rappelle que les athlètes russes pourront participer aux épreuves, mais sans bannière et sans hymne national en cas de victoire. Rachel Kahn et Alexandre Devecchio.
Il ne faut jamais oublier que Vladimir Poutine a un mandat d'arrêt international sur la tête. Il a réussi justement, puisqu'il estime que le réel est une insolence. Et donc, il mène une guerre contre l'histoire et il mène une guerre contre le droit. Et souvent, on dit qu'il y a une concurrence des victimes. Et là, on a la sensation qu'il mène une concurrence des bourreaux, c'est-à-dire entre sa manière, cette autocratie absolument délétère et complètement en violation du droit international et des droits fondamentaux. Il réussit à inverser les choses, mais dans le même mouvement, lorsqu'il pointe du doigt l'Ukraine en disant que en Ukraine, il y a des nazis et donc il va dénazifier, et c'est ça l'objectif de guerre. Il considère, et il n'a pas tort, que les islamistes sont des nazis et donc que forcément ils sont en Ukraine.
Mm-hmm. Alexandre Devecchio, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça ressemble de plus en plus d'ailleurs à de la propagande soviétique, hein, ni plus ni moins. Ceci étant dit, en temps de guerre, il y a toujours de la propagande de part et d'autre. Il faut être totalement honnête et rappeler qu'au moment de l'attentat, les Ukrainiens expliquaient que c'était les Russes qui avaient fait un attentat contre eux-mêmes. C'était pas plus crédible, de même que tout ce qu'on a dit autour de Nord Stream. Donc j'essaie d'être honnête. Après, moi, je pense surtout que Vladimir Poutine est effectivement un dictateur, mais surtout un dictateur qui commet une erreur stratégique majeure, y compris pour son pays. On le voit là. Aujourd'hui, la menace prioritaire, aussi bien, je dirais, pour les démocraties occidentales que pour la Russie, c'est pas l'Ukraine, c'est effectivement la menace islamiste. Et en Russie, c'est une menace qui est très importante, puisque il y a une partie du territoire avec des États, finalement, c'est une fédération là qui pourrait demain faire sécession. Vladimir Poutine pourrait se retrouver avec des républiques islamiques sur son territoire. Il a déjà eu le cas en Tchétchénie, et donc l'Occident, je dirais, chrétien, d'une certaine manière, devrait se défendre prioritairement contre cette menace-là, et Vladimir Poutine faire alliance avec nous, au moins sur ce sujet-là, pour se défendre de ce qui est, à mon avis, une menace existentielle pour lui.
Faire alliance avec Poutine, actuellement, non, c'est absolument impossible.
Bah, et ça a été rappelé par...
C'est pas parce qu'on a un ennemi commun qu'on partage les valeurs.
Quand je dis faire alliance, c'était rappelé par Nicolas Bavrez. On travaille, les services secrets bien continuent sûr à travailler sur ce sujet-là. Et je dis simplement que Vladimir Poutine, plutôt que de s'embarquer dans une guerre avec l'Ukraine qui va l'affaiblir lui et son pays, aurait dû
s'occuper de sa sécurité intérieure.
Voilà ce que j'ai voulu dire.
Merci de le préciser. On va juste écouter Alain Bauer, professeur de criminologie, qui était ce matin sur notre antenne, qui dit que c'est un véritable échec ce qui s'est passé à Moscou pour Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine, il a un ennemi principal qui est le seul qui justifie sa propre existence, sa propre survie politique, et il doit justifier d'un immense échec de ses services de sécurité. Donc il a un marteau, et quel que soit le clou qui se présente à lui, il tape dessus comme s'il n'y en avait qu'un seul, et donc il est obligé de tout relier à l'Ukraine. Et il y a une raison, paradoxalement, c'est que les seules routes qui sont quasiment libres de circulation en Russie pour des raisons de maintenance, de soutien au front, de ravitaillement, etc., les moins contrôlées pour des raisons pratiques, sont les routes vers l'Ukraine et la Biélorussie.
Voilà, c'est une des routes pour Vladimir Poutine, cet attentat à Moscou, Nicolas Bavrez.
Je pense que c'est très clairement un immense échec, effectivement. Mais en fait, il est déjà en échec, surtout. Sa démographie s'effondre. L'économie, effectivement, les hydrocarbures vont maintenant vers l'Inde et la Chine à des prix moindres, mais ramènent quand même de l'argent. L'économie de guerre, pour le coup, est une vérité, une réalité en Russie, mais ça ne nourrit pas les Russes. Il s'est mis complètement maintenant dans la main des Chinois, dont il dépend, et pour une partie de son armement, mais surtout pour ses exportations. Donc, au total, la Russie va sortir extrêmement affaiblie de cette aventure, qui est une aventure folle. Je rappelle que depuis le début de l'opération militaire spéciale qui fait qu'on n'a pas le droit de parler de guerre,
alors,
jusqu'à l'idée que on peut penser du bien ou du mal de Volodymyr Zelensky, mais le traité de nazis, c'est tout simplement grotesque pour un nombre de raisons illimitées. Et donc, tout est fondé sur le mensonge. Et il y a un moment donné, où on finit toujours par aller taper le mur du réel. Et pour la Russie, au point où ça en est, c'est vrai que ça va être un moment qui est très dangereux. C'est quand même un pays qui conserve 6000 têtes nucléaires.
C'est ça.
Et donc, contrairement à ce que dit d'ailleurs Vladimir Poutine, ce qui est frappant, non seulement les Occidentaux n'ont jamais imaginé de faire la guerre à la Russie, mais tous les pays occidentaux ont ça en tête et sont extrêmement prudents parce que personne ne veut l'éclatement de la Russie. Et notamment pour cette raison. La Russie est un pays extrêmement hétérogène et divers. Et s'il doit vraiment exploser, personne ne sait où peuvent notamment aller ces 6000 têtes nucléaires.
Voilà pour la question des Russes. Et nous, sommes-nous prêts pour une guerre de haute intensité? Vous avez publié une tribune il y a quelques jours dans Le Point sur évidemment cette stratégie française. On va écouter Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui s'est exprimé ce matin et qui estime que la Russie représente une menace pour la France et qui aussi a envisagé l'idée de réquisition pour la fabrication d'armement. Écoutez-le.
La réalité, c'est que la Russie représente une menace pour nous. Pour l'Ukraine, c'est une évidence, mais une menace pour nous, ça devient de plus en plus une évidence. On voit bien que le comportement de la Fédération de Russie n'est pas le même qu'il y a 2 ans, au début de la guerre. J'ai rendu public un certain nombre d'interactions particulièrement agressives des forces armées russes à l'égard des forces armées françaises. Des attaques cyber, certes, mais attaques quand même, de plus en plus dures, de plus en plus violentes, tant sur des infrastructures cyber militaires que civiles. Militaires, elles sont largement repoussées, mais les infrastructures civiles peuvent être plus fragiles.
Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet aux ministres et aux délégués généraux pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de priorisation, c'est-à-dire quand vous avez soit une entreprise, soit des sous-traitants qui produisent à la fois des objets civils et des objets militaires, c'est par injonction de donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile.
Voilà pour Sébastien Lecornu. On est très très loin d'une économie de guerre, Nicolas Bavrez.
On n'y est pas du tout.
La réquisition, c'est bien, mais bon.
En Russie, c'est 6% du PIB, c'est 30% du budget. Mm-hmm. Chez nous, on n'est pas à 2% du PIB, contrairement à la majorité des pays européens de l'OTAN. On est à 1,9. Mm-hmm. Et cette idée de réquisition, elle n'est pas très sérieuse, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de commande. Si vous prenez les obus de 155, mm-hmm. on en produit 2500 par mois. Les Ukrainiens en tirent 5000 et les Russes
par jour. Oui.
Et les Russes en tirent entre 15 et 20 000 par jour, ce qui explique qu'aujourd'hui il y a une énorme. Mais pourquoi est-ce que il y a du. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de commandes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie française de l'armement, qui est puissante puisque c'est maintenant le deuxième exportateur mondial, qui est passé devant la Russie, mais précisément le tiers du chiffre est fait à l'exportation. Et pourquoi est-ce qu'il est fait à l'exportation? C'est là que sont les marges qui permettent de financer la recherche et l'innovation. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que à partir du moment où il n'y a pas de commandes de long terme, les industriels ne peuvent pas s'engager à augmenter leur capacité de production.
C'est l'État qui devrait passer ses commandes.
Voilà, et au lieu de... Il n'y a pas besoin de réquisition, il y a besoin de commandes de l'État. Le jour où il y aura des commandes stables, et par ailleurs, on a fait des erreurs incroyables. On ne fabrique plus de poudre, on ne fabrique plus d'armes de poing,
on
ne fabrique plus de munitions. Donc, on s'est tapé de munitions de petit calibre. Pour les obus, c'était une toute petite production. Et vous voyez, les Allemands sont eux aussi très en retard, mais les Allemands, par exemple, pour les obus, ils ont multiplié par 4 leur production depuis 2 ans.
Ce que nous n'avons pas fait.
Et nous sommes à l'arrêt. Donc, là où le ministre a raison, c'est que la Russie est une menace existentielle aujourd'hui pour la France comme pour l'Europe. Là où je pense qu'il faut absolument qu'on bouge, c'est qu'on ne peut pas laisser en l'état une loi de programmation militaire qui, en fait, organisait la poursuite de la fonte de l'armée conventionnelle. Donc, on a remis de l'argent sur le nucléaire et on a raison. Mais l'armée conventionnelle, on diminue le nombre de chars, le nombre d'avions, le nombre de frégates ne bouge pas et on a pratiquement plus d'artillerie. Donc, vous voyez, en Ukraine, il y a 1000 kilomètres de front. L'armée française serait incapable de tenir 80 kilomètres de front aujourd'hui, telle qu'elle est.
Mon Dieu.
Et donc, c'est là où il faut qu'on réfléchisse. Alors, évidemment, on ne serait pas tout seul. Et évidemment, il faut réfléchir avec les Européens. Mmh. Mais il n'empêche qu'il y a vraiment un aggiornamento important à conduire.
Et urgent.
Mmh. Et sur le plan des forces, et sur le plan de l'industrie, et je le rappelais avec le service militaire, et sur le plan de l'esprit de défense. Parce que par ailleurs, on a quand même installé les Français dans l'idée que la guerre était totalement impossible. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça.
On peut dire qu'elle peut se reproduire aujourd'hui, Nicolas Bavrez ? Sur le sol européen, pour le coup,
parce que... Elle est déjà sur le sol européen. L'Ukraine, mmh. c'est l'Europe. Et par ailleurs, comme il a été rappelé, sur le plan cyber, on a déjà des attaques quotidiennes. Et j'ajoute que, si vous voulez, c'est une question de bon sens. Si vous partez de la Baltique et que vous allez jusqu'à Gibraltar, en faisant tout le tour de l'Europe, il n'y a pas une zone qui n'est pas en paix, en guerre, en crise, en révolution, mmh. Avec d'énormes enjeux de sécurité. On a quand même maintenant deux guerres ouvertes très dures en Ukraine et à Gaza. Les Turcs ont fait l'opération dans le Haut-Karabakh. Le Sahel, on se fait sortir d'Afrique et on a maintenant un Sahelistan qui se met en place. Donc, il faut en tirer les conséquences.
Tout est lié, Louis Dragnel.
Non, mais c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la tentation de se dire on fait ça pour l'Ukraine. En réalité, pas du tout. Enfin, certes, oui, par rapport à la menace que peut représenter la Russie sur le continent européen. Mais je pense que et c'est toute l'hésitation en fait française. C'est-à-dire qu'ils se disent peut-être qu'on n'aura pas besoin de s'en servir. Donc, principe de précaution, on va pas trop loin et on met pas tout le système productif français tourné vers l'économie de guerre. C'est un peu l'impression que ça donne. Or, effectivement, l'avenir est au réarmement. Ça, c'est une certitude absolue. Ukraine ou pas Ukraine. C'est-à-dire qu'on va être obligé, vous verrez à la prochaine campagne présidentielle, il y aura des engagements de rehaussement des budgets militaires. Ce sera un sujet très important et je pense très clivant, très différenciant entre les différents candidats. Il y a une question même imminente qui semble être réglée, mais en fait, c'est juste repoussé pour mieux sauter. C'est l'avenir de ce qui se passe dans le bassin méditerranéen. Qu'est-ce qui va se passer en Afrique? Vous évoquiez tout à l'heure l'élection au Sénégal qui, pour la France, est très inquiétante en réalité parce que la France est sur le point de disparaître. Je pense que d'ici 5 ans, la France aura peut-être quitté le Sénégal. Le Tchad, je pense que ça ne va pas durer très longtemps non plus. Et on n'aura plus que la Côte d'Ivoire. Et donc, la question de la place de la France, par exemple, et de l'armée française en Méditerranée et de ce qu'on va devoir faire en Afrique à l'avenir, forcément posera aussi la question des capacités. Il y a des questions plus lointaines aussi dans le Pacifique, à Taïwan.
Et tout ça dans un contexte explosif de dette qu'on évoquait au début de cette émission.
Mais ça, on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que ceux qui gagneront, ceux qui se feront respecter, c'est ceux qui ont le pouvoir de faire la guerre. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas ceux qui ont le meilleur bilan écologique. C'est pas le bilan carbone qui fera la
différence. On revient à l'idée qui a déjà été évoquée par les uns et par les autres, c'est que il va falloir faire des choix.
C'est-à-dire, alors choisir entre l'éducation et l'armée.
Pas forcément.
Enfin,
parce que l'éducation participe de l'esprit de défense assurément, mais par exemple, le fait d'avoir 34% du PIB dans des aides sociales et d'avoir 1,9% du PIB dans la défense, là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne... Et d'une certaine manière, l'État régalien, au sens large, en réalité, il a été ramené autour de 4-5%, ce qui est complètement déraisonnable. Et donc, là, il y a des vraies masses sur lesquelles il va falloir s'interroger.
On a mis 1 milliard pour pouvoir nager dans la Seine. Je ne veux pas être totalement démagogue, mais c'est un chiffre qui est quand même
faramineux.
Et je pense que 16 milliards d'aide au développement des pays.
C'était juste pour rebondir et peut-être faire le lien entre les deux interventions sur la question de cette menace de la Russie pour la France. En réalité, j'ai le sentiment que comme Poutine, dans le réel, il a un vrai genou à terre, et qu'il semblait vouloir dire qu'il était un des moteurs des BRICS, BRICS plus sud-global, je pense qu'effectivement, avec cette bascule qui se passe en Afrique, et notamment en Afrique francophone, ça va renforcer notre fragilité. Pardon de dire comme ça,
juste un dernier mot pour dire que cette nouvelle donne, en même temps, si on arrêtait d'être stupide, on pourrait vraiment en bénéficier. Parce que c'est un monde où l'État revient, où il faut faire un nouveau partenariat entre l'État, les entreprises, les citoyens. Dans le passé, on y était arrivé pas si mal. On a quand même, nos armées ont des points de faiblesse importants sur les drones, etc. Mais il y a aussi des acquis, hein, et notamment le fait que ce sont des armées qui ont l'expérience du combat, qui ont continué à se battre. Ça fait une énorme différence, par exemple, avec l'Allemagne, ou avec un pays comme d'ailleurs la Chine, puisque le dernier engagement de la Chine, c'est 79 contre le Vietnam, où ça s'était très mal passé pour eux. Et donc, si vous voulez, ce que je trouve regrettable, c'est que, par ailleurs, notre pays a des atouts dans cette nouvelle donne et qu'on ne les utilise pas. Et non seulement on ne les utilise pas, mais on les stérilise pour passer notre temps sur des sujets périphériques ou des diversions. Remettons-nous sur le cœur des choses. Vous voyez, ce qui a été dit, le cœur de l'État, à quoi il doit servir. Et là-dessus, il faut réinvestir. Là où il n'a rien à faire, sortons-le.
Allez, Nicolas Bavrez, démocratie contre empire autoritaire. La liberté est un combat aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup de la pertinence de vos analyses ce soir dans Punchline. Merci Louis de Ragnel, Rachel Kahn, Sabrina Medjeber et Alexandre Devecchio. Dans un instant, sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Hélène Zélani pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.